L'extase du papillon. Une émission présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous. En suivant cette émission depuis le début de l'été, eh bien, vous vous familiarisez, mine de rien, avec la vie et l'œuvre de trois poètes de haïku japonais, trois grands poètes qui se sont efforcés de moderniser ce genre poétique au crépuscule du 19e siècle et à l'aube du 20e. Après Shiki donc, voici Osai. Avant de vous conter son histoire, permettez-moi de remercier ici les éditions Mundaren qui ont publié l'essentiel des poèmes des grands haïjin japonais. Les haïkus de Osai que vous entendrez aujourd'hui ont été réunis par Mundaren sous le titre « Sous le ciel immense, sans chapeau ». Les livres de cet éditeur, dont je vous conseille vivement de consulter le catalogue sur Internet, sont pratiquement tous reliés à la chinoise. Ils sont magnifiques et votre libraire n'aura aucune peine à les commander. Et maintenant, place à Ozaki Osai. Musique. Ozaki Shuyu, qui prendra plus tard pour nom de plume Osai, est né le 20 janvier 1885 à Tottori, au bord de la mer du Japon, à l'ouest de Kyoto, d'une famille de descendants de samouraïs. Son père est greffier au tribunal de Tottori, un homme respecté, et sa mère lui prodigue, ainsi qu'à sa sœur aînée, une grande affection. Shuyu est un élève brillant, studieux, d'une grande capacité intellectuelle. Au lycée, il s'intéresse beaucoup à la philosophie et s'interroge déjà sur le sens de la vie. Il s'imprègne du parfum de la philosophie taoïste chinoise, de l'accord au cours des choses à travers les œuvres de Lao Tzu, le vieux sage, auteur légendaire du Tao Te King, et de Chuang Tzu. Il lit aussi les classiques de l'histoire de la Chine et du Japon, et son goût pour la littérature l'amène à étudier de près les grands poètes chinois des dynasties Tang, Li Po, Wang Wei, Tu Fu et Po Shuyi, mais aussi des poètes Song comme Su Tongpo, Yang Wanli et Lu Yu. C'est l'époque où, par suite de la restauration impériale Meiji de 1868, le Japon moderne est en train d'éclore. Le pays s'ouvre au commerce international et la société, fascinée par le miroir aux alouettes du profit, déjà, s'occidentalise à tout va et perd ses repères traditionnels. En 1900, Shuyu, alors âgé de 15 ans, fonde avec quelques amis un club de poésie baptisé Kinzei, ce qui signifie persil et bourse à pasteur. Il crée la revue poétique des amis de l'école de Tottori. Et à 18 ans, dans la classe littéraire du lycée, il se lie d'amitié avec Ogiwara Seisensui, avec qui il va partager dans les années à venir la même aventure poétique de rénovation du haïku. Dans la brise maritime, les kakis rougissent au village de pêcheurs. Dans la brise maritime, les kakis rougissent au village de pêcheurs. À une stèle adossée, je contemple la lune. À une stèle adossée, je contemple la lune. La cascade se transforme en rivière au milieu du feuillage vert. La cascade se transforme en rivière au milieu du feuillage vert. À 20 ans, bien que beaucoup plus intéressé par les études de philosophie et de littérature, il s'inscrit à la faculté de droit de la prestigieuse Université impériale de Tokyo, Un diplôme de droit ayant en effet une plus grande valeur professionnelle dans la nouvelle société en train de voir le jour. À l'université, Osai pratique l'aviron et joue au tennis. À 21 ans, eh bien, il tombe amoureux de sa cousine Yoshie, une jeune fille très intelligente et versée dans la littérature, avec qui il s'entend parfaitement. Il la demande en mariage, mais le frère aîné de Yoshie s'oppose à ce mariage consanguin. Le cœur brisé, Shuyu commence à s'adonner au saké. Il se met parallèlement à étudier aussi le bouddhisme, plus particulièrement le courant dit de la terre pure. Le courant de la terre pure dont le grand Aijin Issa fut un adepte quelques siècles auparavant. C'est à 23 ans que Shuyu prend pour nom de plume Osai, ce qui signifie « celui qui a lâché prise ». Le lâcher prise, c'est un des conseils de la philosophie taoïste notamment, mais aussi du bouddhisme zen. « Celui qui a lâché prise », Osai. En octobre 1909, âgé de 25 ans, Osai est diplômé de la faculté de droit et bientôt engagé dans une importante compagnie d'assurance, la compagnie d'assurance vie Toyo. Il se marie alors avec Kaoru, une jeune femme de 19 ans. C'est un mariage malheureux qui n'apporte à Osai ni stabilité ni descendance. Il s'adonne de plus en plus à la chose qui chasse les soucis, c'est ainsi qu'il appelle le saké. En 1915, malgré tout, à 30 ans donc, il est nommé au bureau d'Osaka de la compagnie Toyo et quelques mois plus tard au siège de Tokyo en tant que responsable du département des contrats d'assurance. À Tokyo, Osai se rapproche des poètes de la nouvelle tendance, réunis par son ami de lycée, Sei Sensui, autour de la revue Sun qu'il a créée 4 années plus tôt. Sei Sensui est le chef de file de ce nouveau courant poétique d'avant-garde qui prône l'abandon dans la composition du haïku du rythme 5-7-5 syllabes et du recours obligatoire à un mot indiquant la saison. Les protagonistes de la nouvelle tendance sont partisans d'une forme complètement libre. Pour eux, seule importe la juste traduction de l'expérience poétique en dehors de toute règle. Osai commence à participer à leurs réunions et ses poèmes sont publiés dans Sun. Ainsi, ces 4 haïkus qui sont passés à la postérité. Le bruit du sécateur chez le fleuriste. Je fais la grasse matinée. Le bruit du sécateur chez le fleuriste. Je fais la grasse matinée. Le poissonnier énumère à voix haute ses poissons dans un coin ensoleillé. Le poissonnier énumère à voix haute ses poissons dans un coin ensoleillé. Après avoir réprimandé ma femme, sous le soleil de plomb, je sors marcher. Après avoir réprimandé ma femme, sous le soleil de plomb, je sors marcher. De la mendiante, l'opulente, poitrine. De la mendiante, l'opulente poitrine. Malgré son ascension sociale et sa situation financière plutôt confortable, Osai se sent de plus en plus mal à l'aise dans une société où les valeurs traditionnelles sont bafouées, où chacun lutte pour son intérêt personnel. Il prend peu à peu l'habitude de se rendre ivre au bureau et ne se met au travail que vers midi. Il vient travailler en kimono, le même que celui avec lequel il dort. L'après-midi, il part avant tout le monde. Il néglige de plus en plus son travail. Les affaires dont il a la charge ne sont pas menées à bien, tant et si bien qu'au mois d'octobre 1921, il est relevé de ses fonctions de chef du département des contrats d'assurance et relégué au poste sinécure d'enquêteur du département des finances. Finalement, là, il donne sa démission. Dans une lettre qu'il adressera quelques mois plus tard à un ami, il explique que son échec à vivre en salarié tient à son honnêteté innocente au milieu de l'égoïsme, de la médisance et de la corruption. Il est le résultat de machinations jalouses et de rumeurs calomnieuses. Osai, maintenant âgé de 36 ans, retourne avec sa femme à Totori, son village natal. Là, eh bien, il passe ses journées à la source chaude et le soir va s'enivrer à la taverne. Ses économies s'épuisent vite, il doit bientôt se mettre en quête d'un travail. Sur la recommandation d'un ancien ami d'université, en mai 1922, accompagné de sa femme, il part à Séoul, en Corée, qui est alors sous contrôle japonais, comme directeur d'une nouvelle compagnie d'assurance après s'être engagé à ne plus boire. Mais bien vite, il est révolté par la politique coloniale du Japon en Corée. Les terres et les récoltes sont confisquées, la langue coréenne et les noms coréens sont interdits. Ayant, après une brève accalmie, recommencé à boire plus que de raison et écrasé par ses responsabilités professionnelles et les dettes considérables qu'il a contractées, un peu plus d'un an après son arrivée, il décide d'abandonner son poste et de quitter la Corée. En juillet 1923, il part vagabonder en Mandchourie, alors aussi sous contrôle japonais, dans l'espoir d'y monter une affaire. Mais à Changchun, il est hébergé chez un ami et à la fin du mois d'août, hospitalisé pour une crise de pleurésie. De retour au Japon au mois de septembre, peu de temps après le terrible tremblement de terre qui a ravagé Tokyo, sans un sou et criblé de dettes, il va s'installer provisoirement chez un de ses cousins à Nagasaki. Il convainc alors sa femme de le quitter et décide de rejoindre une communauté religieuse. Le 23 novembre, âgé de 38 ans, Osai rentre au temple bouddhiste Itoen à Kyoto, une communauté d'ascètes où l'alcool est strictement interdit, tandis que pour Safar, eh bien, sa femme s'installe à Osaka où elle a trouvé un emploi dans une usine de filature textile. Le temple Itoen est un site célèbre pour la beauté des feuilles rouges de ses érables en automne. Suivant l'enseignement du sutra de la guirlande Avatamsaka, en entrant au temple Itoen, Osai se pénètre du Gatha, poème bouddhiste, figurant dans le dernier chapitre du sutra. Ce poème le voici. « Jusqu'à aujourd'hui, j'ai perpétré toutes sortes de mauvais actes, tous à cause de l'avidité, de la colère et de l'ignorance engendrés par mon corps, ma bouche et ma conscience. De tout cela aujourd'hui, je me repens. » La devise du temple Itoen est, je cite, « Se repentir par le service bénévole et manifester sa gratitude par la pratique de l'aumône. » Le temple compte 30 à 40 membres, hommes et femmes, au printemps et en été, mais beaucoup moins quand arrive le froid, car les bâtiments ne sont pas chauffés, n'ont pas de volets et sont dénués de tout confort rudimentaire. La journée commence à 5 heures du matin. Après la toilette et le ménage, les membres de la communauté procèdent à la lecture du sutra de la guirlande jusqu'à 6h30. Puis, après un repas frugal, chacun sort pour aller accomplir divers travaux bénévoles, l'entretien des jardins, du nettoyage, déménagement, transport de charbon, sciage de bois. Osai ne rentre au temple qu'une fois la nuit tombée, épuisé, en traînant les pieds. j'ai balayé les feuilles mortes. Ceux qui passent après ne se rendent compte de rien. J'ai balayé les feuilles mortes. Ceux qui passent après ne se rendent compte de rien. Nuit de lune, une fois rentré, je commence une longue lettre. Nuit de lune, une fois rentré, je commence une longue lettre. 4 mois après son arrivée, manquant de force et malade, Osai quitte la communauté Itoen. Au mois de mars 1924, il trouve un poste de servant au temple Shōjō à Kyoto, affilié à l'école de la Terre pure. Le 3 avril, son ami Seisensui vient lui rendre visite au temple. Depuis le départ de Osai en Corée, Seisensui a perdu successivement sa femme, sa mère et son enfant en bas âge. Seisensui demande au supérieur du temple une permission de sortie pour Osai, qui est alors en train de nettoyer les seaux de saumure. Tous deux vont fêter leur retrouvaille dans une auberge en ville, devant un repas bien arrosé. Ivre, Osai laisse éclater son mécontentement et sa colère envers le supérieur du temple et l'injurie. Ce dernier, mis au courant, chasse sur le champ Osai du temple Shōjō. En juin 1924, sur la recommandation d'un moine de la communauté Itoen, Osai entre au temple Suma à Kobe, au sud de Kyoto, au bord de la mer intérieure. La mer fait grand bien à Osai, né lui-même au bord de l'océan, et c'est là que son inspiration et son expression poétique arrivent à maturité. Ce cœur, en quête de ceci ou de cela, dans la mer, je libère. Ce cœur, en quête de ceci ou de cela, dans la mer, je libère. Les hautes vagues se brisent sur le rivage. Seul, ayant renoncé à tout. Les hautes vagues se brisent sur le rivage. Seul, ayant renoncé à tout. Moins d'un an après son arrivée au temple Suma, en mars 1925, à la suite d'un conflit interne au temple, le supérieur ayant pris sa retraite et la lutte pour sa succession ayant commencé, Osai décide de partir et retourne provisoirement dans la communauté Itoen. Il entend dire que le temple Joko à Obama, au bord de la mer du Japon, au nord de Kyoto, a besoin de main-d'œuvre pour les travaux de reconstruction. Il s'y rend et y est engagé comme servant le 14 mai 1925. Il a 40 ans. Le temple bouddhiste Joko, affilié à l'école zen Rinzai, a abrité jadis des moines éminents. On y applique la règle établie par le maître chinois Po Chang, fondateur du premier monastère zen, un jour sans travail, un jour sans nourriture. Un an et demi auparavant, un incendie a entièrement détruit le bâtiment principal. Le domaine est envahi par les mauvaises herbes et les ronces, et les serpents pullulent. Les travaux de désherbage commencent le matin à 4 heures. Le temple ayant très peu d'argent, les repas sont composés uniquement de pousses, de bambous et de fèves de soja. Dans mon ventre pousse un bosquet de bambous et je ressemble de plus en plus à un pigeon, écrit non sans humour Osai. Son seul lien avec l'extérieur est la correspondance qu'il entretient avec les poètes de la revue de son ami Seisensui, la revue Sun. des fèves de soja mises à gonfler dans l'eau. Nuit de printemps. Des fèves de soja mises à gonfler dans l'eau. Nuit de printemps. Aujourd'hui, arrachant des mauvaises herbes, quelqu'un me demande le chemin. Aujourd'hui, arrachant des mauvaises herbes, quelqu'un me demande le chemin. En juillet 1925, le temple Joko est déclaré en faillite. Le supérieur est destitué et Osai, très diminué physiquement, doit quitter le temple. Seisen Sui lui offre alors l'hospitalité dans son petit logement de Kyoto baptisé le kiosque au bord du pont. Mais le logement est beaucoup trop exigu. Ils doivent partager la même moustiquaire alors que la chaleur est accablante. Osai rêve d'aller vivre en ermite sur une île du sud. Seisen Sui, qui a des amis sur l'île de Chodo, dans la mer intérieure, arrange l'affaire. Il monte un comité de soutien pour collecter des fonds et pour financer le voyage et assurer à Osai un petit revenu. Il publie un recueil de haïku de Osai et de lui-même, illustré par un ami, et remet l'argent de la vente à Osai. Le 10 août 1925, un repas d'adieu est organisé chez Seisen Sui. Osai exprime son vœu de renoncer au saké une fois arrivé sur l'île de Chodo. En attendant, pour célébrer l'événement, le saké coule à flot. Tous les invités sont ivres morts. Au soir du 12 août, Seisen Sui accompagne Osai à la gare de Kyoto. Avant le départ, il trinque avec des coupes remplies d'eau glacée. Sur l'île de Chodo, Osai se rend chez Inoue Ishini, natif de l'île, disciple de Seisen Sui et collaborateur de Sun. Ishini va lui apporter une aide morale et financière jusqu'à la fin de sa vie. Le 20 août, Osai prend congé de Inoue Ishini et va s'installer dans l'ermitage Nango, le pays natal du sud, qui est sis dans le domaine du temple Seiko, au pied d'une colline, à 5 minutes du temple proprement dit. C'est les supérieurs du temple Seiko, Sugimoto Yugen, lui aussi ami de Seisen Sui et collaborateur de Sun, qui lui en accordent la jouissance. Osai arrive dans l'ermitage avec, pour tout bagage, un carré de tissu dans lequel sont empaquetées ses affaires. C'est une maison de 3 pièces, installée près d'un grand pin. On voit un peu la mer par la petite fenêtre. On voit un peu la mer par la petite fenêtre. Du temple, on apporte à Osai un matelas, une moustiquaire, une petite table, du charbon, des prunes confites dans du sel et quelques autres articles de base. Au village, il va acheter un poêle en terre, une marmite, un bol et de la farine. Voilà Osai enfin seul, chez lui, libéré de toute tâche pour gagner sa vie. Pour célébrer sa nouvelle vie, il se rend à la taverne du village boire une coupe de saké. À l'ermitage Nango, Osai passe une bonne partie de ses journées à réciter les sutras, plus particulièrement le sutra du cœur et le sutra de canon, à composer des haïkus qui pour la plupart sont publiés dans Sun, à écrire des lettres à ses amis poètes et à lire. Ses ressources principales proviennent des offrandes et des dons des pèlerins du temple Seiko et de la bienveillance du supérieur du temple. Le comité de soutien créé à l'initiative de Seisen Sui apporte le complément. Osai vit là simplement d'un régime de gris grillé et d'eau. Mon ermitage se dresse sur un tertre tout au bout du bourg, balayé par le vent qui souffle de la mer. Son seul compagnon est un grand pin. Le seul chemin devant la maison est une petite sente qui monte vers le sud-ouest et mène à la montagne. J'ai cédé le grand pin aux bandes de moineaux. Moi, j'ai ma hutte. j'ai cédé le grand pain aux bandes de moineaux. Moi, j'ai ma hutte. Depuis peu, je me suis installé dans cet ermitage par la grâce du Bouddha. Il y a la mer et les nuages, matin et soir, et en plus, il y a un pilier sur lequel je peux m'adosser. Maintenant qu'on est à la mi-automne, en plus de la mer et des nuages, il y a la lune et les insectes. En d'autres termes, c'est la meilleure saison. Comme le centre du bourg n'est pas très loin, je ne prends pas la peine d'attacher mon argent au bout de ma canne pour aller faire des courses. Comme le bourg n'est pas trop près non plus, sur mon oreiller, près de la fenêtre, je peux rêver tranquillement. Comme c'est depuis peu que je vis dans cet ermitage, j'ai peu de contact avec les gens de l'île. Tous les jours, dès le matin, je m'assois dans la maison, tout seul. Une vie solitaire, sans un mot, sans sortir dehors. Comme j'ai peu de contact avec l'extérieur, ma maison et moi, de jour en jour, devenons plus intimes. Même un clou sur le pilier ou de la poussière sur le tatami ne peuvent échapper à mon regard. Avec le temps, la maison et moi, je crois, allons devenir un. Maintenant, c'est la fin de l'automne. C'est vraiment la belle saison. Tous les matins, vers 5 heures, il fait encore nuit. Je me lève. Ma maison a juste une lampe électrique qui reste allumée jusqu'à 6 heures. J'ouvre grand la fenêtre sur le côté est et les deux shoji sur les autres côtés, puis balaye la salle du Bouddha, les 8 tatamis et la cuisine. Ensuite, j'allume les lampes à huile devant l'autel et sors balayer le petit jardin à l'ouest sous le grand pin. Au moment où j'éteins la lampe électrique, la série de montagnes de l'île, visible à travers la petite fenêtre à l'est, se prépare pour le soleil levant au milieu de la beauté des nuées de toutes les couleurs. Vers le bourg, tout semble encore calme, tout semble encore endormi, excepté vers la plage où parfois on entend des voix de pêcheurs. Ainsi commence ma journée quand il fait beau. Les sensations que j'éprouve dans mon ermitage par une belle matinée sont au-delà de toute comparaison. Sur le chemin du retour à mon ermitage, les pins rugissent dans le vent, les herbes folles foisonnent. J'en ressens une grande impression de vide. Un haïku que Basho dédia à son disciple Kuku dit « Déjà les couleurs de l'automne, de jarre, de saumure, je ne possède pas. Déjà les couleurs de l'automne, de jarre, de saumure, je ne possède pas. » J'entends dire que cela fait allusion à un passage des Essais sur l'oisiveté qui dit qu'une personne qui renonce au monde doit écarter toutes les absurdités de ce monde flottant et ne posséder même pas une jarre de saumure. Eh bien, dans cet ermitage, il n'y a même pas une jarre de saumure. Ce n'est pas que j'ai l'intention de me couper de toutes relations humaines afin de me libérer de toutes les obligations mondaines, comme on dit. Je ne suis pas fait de cette eau-là. Aussi, de temps à autre, je suis pris par le doute. Serais-je définitivement seul? Je m'adosse au pilier sud de ma chambre à 8 tatamis, une petite table basse rectangulaire empruntée au temple devant moi. Je reste assis, tout seul, sans un mot, toute la journée, dès le matin, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il vente. Voilà. Nous retrouvons la semaine prochaine Osai pour la fin de sa vie et pour une lecture de ses plus beaux haïkus. Je tiens une nouvelle fois à préciser que cette émission n'aurait pas été possible sans le Osai sous le ciel immense sans chapeau publié aux éditions Mundaren. À la semaine prochaine.